Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici partis pour une nouvelle émission, mais de résistance ce lundi, 19h-20h, tous les lundis soirs, l'émission de toutes les résistances au passé, au présent, au futur, au pluriel comme au singulier. Or, aujourd'hui, Dieu sait si les résistances sont d'actualité, parce que nous avons beaucoup de personnes courageuses qui se sont engagées lors de ces dernières élections. Je rappelle que nous venons en France de vivre deux périodes électorales très importante. La première était une période visait les présidentielles, et celle que nous venons de vivre, ça s'est terminé ce dimanche 19 juin 2017, c'était le deuxième tour des élections législatives. C'est une période cruciale, d'autant plus que, et je pense que notre invitée d'aujourd'hui, Awaria, est tout à fait consciente et qu'elle va pouvoir nous en parler. Une période de profond remaniement politique, on n'avait jamais vu ça chez nous. Bonjour Awaria, je rappelle ce que tu fais d'abord avant peut-être que tu t'adresses aux auditeurs directement. Awaria Adjashi, que tu t'es présentée aux élections législatives sous l'étiquette du mouvement des progressistes, qui est un mouvement qui a été créé par Robert Hu. Tu nous expliqueras pourquoi et comment tout à l'heure. Tu es marseillaise, tu viens du 13e arrondissement, c'est ça?
Oui, 13-14.
Le 13 et 14 arrondissement. Mais tu n'es pas du tout inconnue sur la scène politique locale, puisque tu as déjà exercé plusieurs mandats.
Oui, que j'expliquerai et que j'égrainerai un petit peu plus tard.
Oui, si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, justement, de ce qui se passait sur le plan politique chez nous en France, lors de ces dernières élections nationales? C'est un peu... Parce que tu es quand même une vieille, de la vieille là-dessus, hein, quoi que tu sois quand même très jeune. Mais tu es quand même une routière de la politique, parce que tu as déjà effectué plusieurs mandats et pas n'importe lesquels. Et donc, tu sais comment ça fonctionne. Or, jusqu'ici, c'est vrai qu'on avait l'habitude, les traditions étaient, on était bien rangés, c'était bien dans notre tête. Il y avait la droite d'un côté, avec l'extrême droite de l'autre côté qu'il fallait combattre. Et puis de l'autre, la gauche, avec les socialistes en majorité. Et puis... les un peu plus extrêmes, dont tu fais partie d'ailleurs.
Bah oui, d'ailleurs, d'abord, bonjour Nora.
Bonjour.
Et bonjour à tous les auditeurs. Merci de me réinviter à échanger sur cette question qui est essentielle, cette chose politique qu'on a du mal aujourd'hui à retrouver les contours traditionnels qu'on connaissait.
On est un peu dérouté.
Alors, c'est quand même particulier que cette réflexion vienne de moi, puisque tu as effectivement expliqué que... je m'y connaissais un tout petit peu en politique, que j'avais aussi eu des mandats électifs et que ces mandats, on les avait acquis avec ce système traditionnel d'exposition politique et d'explication sur la scène politique des projets que les uns et les autres pouvions défendre. Alors, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Maintenant, on en connaît les sources. Et c'est plus facile d'en donner une légère explication. Ça faisait maintenant quelques années et quelques échéances électorales qu'on vivait sur cette idée de la chose politique qui devenait de plus en plus compliquée à faire adhérer et que la population nous rappelait systématiquement par son abstention qu'elle ne voulait plus du système qui existait en l'état.
Oui, toi tu expliques de cette façon-là, il y a un lien direct entre les grands bouleversements qui sont survenus sur la scène politique et le phénomène d'abstention qui date d'il y a quand même assez longtemps.
Ah ben oui,
ça fait déjà 20 ans. Hein.
Ça fait déjà 20 ans, mais ça fait pratiquement 20 ans qu'on nous explique que le système n'est plus adapté, ou en tout cas que la façon qu'on a eu de faire de la politique jusqu'à présent ne répondait pas a priori aux volontés de la population.
Ce fameux clivage gauche-droite finalement représentait plus grand-chose, quoi, avec d'un côté la gauche caviar entièrement très pro-européenne et donc libérale, et puis de l'autre côté une droite qui restait assez conservatrice dans l'ensemble et malgré tout défendant le capitalisme et les valeurs traditionnelles de la droite.
Les gens de droite ont voté à droite. Ceux qui portent ce projet-là, ceux-là n'ont pas failli à leur projet et ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils l'ont porté et l'ont défendu et ils ont concrétisé la chose par le vote. En revanche, là où la population de gauche s'est sentie trahie, c'est que lorsqu'un projet est porté dans lequel il y a un contenu de gauche et que ce contenu a été défendu, et lorsque nous sommes aux affaires, eh bien on ne fait pas ce que le projet nous a dicté, eh bien, on a une désaffection flagrante du peuple de gauche. La France n'est pas une France de droite traditionnelle, puisque même si on a passé De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing ou Chirac, on a eu quand même des moments où la France s'est sentie plutôt solidaire, enfin en tout cas plutôt imprégnée par un projet de gauche qui avait été porté par Mitterrand, par les communistes, par toutes ces organisations progressistes qui ont fait avancer la France, hein, qui ont modernisé notre pays socialement. On peut pas dire qu'on vit dans un système qui n'a pas été aussi celui qui a été transformé par les forces progressistes. Mais ces dernières années, on a forcé de constater qu'on a failli à ce rythme-là, on a failli à cette conscience-là et on a failli à l'honnêteté politique.
D'accord, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors par contre, tu as cité quelque chose, ça paraît pas évident à tous les auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu appelles les forces progressistes ?
Les forces progressistes, ce sont des organisations d'hommes et de femmes qui ont pour objectif de faire évoluer un système qui soit le plus juste au possible et puis le plus cohérent en fonction du rythme de notre société.
D'accord, parce que dans cette période où on est en train de redéfinir notre scène politique et les argumentaires des politiques de part et d'autre de l'hémicycle, je pense que c'est très important de requalifier les termes. Or, comment est-ce que tu distinguerais ton progressisme à toi et comment est-ce qu'on pourrait le distinguer et en faire quelque chose de redondant et qui médiatiquement sonnerait pour les prochaines élections, sonnerait bien et ferait appel aux gens comment tu peux le distinguer d'une autre forme de progressisme que dans la gauche traditionnelle, enfin je veux dire au Parti Socialiste, on a aussi parlé de progressisme, et même à droite, c'est les Républicains, on parle de progressisme aussi, En Marche aussi, c'est très amusant, tout le monde parle de progressisme, il faut que la société progresse. Alors finalement, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce mot-là soit récupéré ? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que ce mot ne prend de sens que si le progrès est valable pour tout le monde.
Voilà, c'est ce que j'allais définir comme notion. Le progrès, c'est lorsqu'il impacte. Lorsqu'il impacte massivement la population. Je n'imagine pas le capitalisme impacter massivement une population. En revanche, toutes les politiques sociales ont impacté massivement la population. On va prendre un exemple. Parce que quand on parle de politique sociale, on imagine simplement qu'elle se réduit à la solidarité en direction des bénéficiaires des minima sociaux. Moi, je dis qu'une personne qui est qui est en bonne santé à l'instant T et qui ne l'est plus à l'instant T plus 2, une société progressiste s'est organisée de façon à ce que cette personne-là puisse malgré tout avoir une place dans notre société. en faisant en sorte qu'il y ait une place dans l'emploi, une place dans l'espace social, dans l'habitat. Quand on améliore l'habitat et qu'on permet à ces personnes qui se retrouvent en situation d'handicap d'être dans des logements qui sont adaptés, un capitaliste qui n'a pour objet que le retour sur son investissement quand il monte un logement, et même si c'est un logement social, s'il peut ne pas avoir de variété dans la construction de son logement, de ces logements-là, c'est tout bénef pour lui. Oui. Or, des progressistes, eux, font en sorte que dans le logement qui est construit, il y ait des logements qui soient à destination des personnes qui ont une réduction de mobilité.
D'accord. Et ils adaptent le principe de mobilité sociale, de mixité sociale qui est présent dans les PADD.
Oui, c'est ça aussi, il va falloir qu'on en rediscute, parce que la mixité sociale, quand elle est simplement en direction d'une identité, on n'a plus le sentiment d'être dans une mixité sociale.
Oui, parce que mixité, c'est mixité à tous les niveaux, générationnel,
tout à fait,
culturel, d'accord.
Mais c'est ça la mixité sociale. Or, on a réduit la mixité sociale au pouvoir d'achat. Mmh. Au niveau
avec caractéristiques socio-économiques, c'est quoi. Ok, et ça faudra en rediscuter, parce que c'est vrai que c'est la source même du développement des quartiers, quoi,
dans la mesure où on n'a pas effectivement, si on opère une politique de peuplement dans laquelle on cantonne sur un espace dédié une identité en particulier et non pas une identité sociale, parce qu'une identité sociale, bien sûr, elle a une diversité, elle a une caractéristique diverse. Or, nous, dans nos quartiers populaires, nous avons et une diversité sociale, mais aussi une unité identitaire. Ce qui ne participe pas du tout à l'intégration dans une société mixte et diverse.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est d'abord et avant tout, ça peut être déjà l'identité de quartier portée par une diversité et une mixité.
Tout à fait.
C'est ça, c'est ce que tu veux dire.
Mais oui, c'est ce qu'on retrouve dans les noyaux villageois, par exemple.
C'était le but de la loi SRU 2000.
C'était le but de la loi SRU dès son apparition.
Oui, et...
Conforté par la loi SRU 2000, bien évidemment.
Oui, et c'est très important. Est-ce que tu as l'impression qu'à Marseille, c'est très respecté, ce principe-là ?
Non, pas du tout.
Ouais. Mais je le savais déjà. En général, on le dit de toutes les grandes villes, mais c'est vrai que Marseille est quand même assez critiquée là-dessus.
Marseille est une ville exceptionnelle. Et dans son exception, elle intègre des façons de faire qu'on subit.
Tout à fait. Oui. Et tu fais partie des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on n'ait pas à subir.
C'est ce que j'essaie de faire.
D'accord.
Il faut parfois mal compris, mais c'est ce que j'essaie de faire.
Il faut créer un nouveau front.
Il faut créer de nouvelles volontés.
Est-ce que tu penses qu'avec notre nouveau député, Jean-Luc Mélenchon, les choses risquent de changer ?
Je l'espère, en tout cas. Je l'espère.
D'accord.
Alors, c'est vrai que... On n'a pas parlé de mon parcours politique.
On va en parler, justement, ça m'intéresse.
Mais effectivement, on peut ne pas penser, en tout cas à Marseille, que je suis extrêmement éloignée de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, puisque tu es quand même de gauche. Ouais.
Je suis surtout de gauche. Je ne suis pas quand même de gauche, de gauche.
Tu es d'abord et avant tout de gauche, mais aujourd'hui on ne sait plus exactement comment se positionner. Alors, avant même de parler de ton parcours, je vais juste te poser une petite question. Effectivement, tout à l'heure on en discutait, à l'Assemblée nationale, il y a 18 les insoumis qui ont été élus, donc ils vont peser dans l'hémicycle, ils vont, comme tu l'expliquais tout à l'heure, pouvoir créer un groupe parlementaire. Parmi eux, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est député des Bouches-du-Rhône, donc après il faudra voir ce que c'est susceptible de donner par rapport aux autres politiques en local. Et puis, il y a 10 partis communistes dans la gauche traditionnelle, et comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, pour qu'ils constituent un groupe, il faudrait qu'ils puissent s'allier avec ceux du Parti Socialiste qui restent, qui sont une trentaine.
J'expliquais en fait tout à l'heure, effectivement, la difficulté que pourrait, j'imagine, hein, je dis ça avec beaucoup, beaucoup de recul, hein, et de retenue surtout. Moi, j'espère qu'il y ait, que dans cette assemblée, il y ait une vraie opposition. Parce que c'est l'opposition aussi hein, qui caractérise la démocratie et le totalitarisme pour moi c'est quelque chose que je rejette, qu'il vienne de la société civile ou d'un parti qui serait là de façon très hégémonique. Pour moi, le totalitarisme, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'il y ait une opposition pour qu'il y ait des débats sur des questions essentielles de transformation de notre société. Je crois que le mouvement En Marche avec le président Macron ont quand même de grandes ambitions dans la transformation de notre société, et notamment en matière de remise en question des acquis sociaux. Alors c'est vrai que je fais partie du mouvement des progressistes et que Robert Hue, dès la première heure, a porté son soutien à Emmanuel Macron parce qu'il il ne pouvait pas imaginer ne pas avoir au second tour la gauche telle que se définissait aussi par ailleurs le président Macron au second tour. Parce qu'il n'imaginait pas non plus le plafond de verre se briser pour que la France insoumise puisse exister avec force au second tour et battre le Front National. Alors plutôt que d'avoir et d'être condamné à un projet Fillon tel qu'il nous l'avait exposé, et malgré les difficultés ensuite qu'il a pu avoir, c'est un projet qui était attendu par une grosse partie de la droite, et ça venait aussi remettre totalement en question la philosophie même solidaire de notre pays, hein, qui a été acquise par cette modernité, ce progressisme des hommes et des femmes de gauche qui ont existé jusqu'à présent. Donc du coup, bien sûr, m'entendre dire qu'il faut absolument avoir une opposition au gouvernement en place, ça peut, aux oreilles de certains, être mal perçu, mais il n'empêche que je suis cette femme de gauche qui a besoin de voir exister des programmes de gauche et qui a besoin aussi de voir exister au niveau local une honnêteté intellectuelle et une façon de faire de la politique qui permette à beaucoup d'entre nous d'émerger. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est le mouvement En Marche qui est arrivé à faire ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est un repli communautaire, hein, ma réflexion n'est pas du tout un repli communautaire, mais c'est juste que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez 39 députés qui sont issus soit de quartiers populaires, soit d'une identité qui n'avait jamais imaginé pouvoir exister de façon massive dans ce lieu de décision. Et je suis chagrinée que ce soit un mouvement comme celui d'Emmanuel Macron qui porte à l'Assemblée nationale cette diversité-là. Or, c'est une chose qui a toujours été appelée de nos voeux dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que nous sommes aussi les spécialistes de nos vies. Nous avons aussi quelques expertises à faire valoir. Et nous avons toujours été ceux qui devaient déposer cette expertise auprès de personnel politique qui allait consigner notre expertise et pensant qu'ils étaient les mieux placés pour pouvoir en parler, bien sûr, mais la démocratie c'est pas ça. La démocratie et le vivre ensemble dans une société organisée avec sérénité, c'est de permettre à toutes ces personnes d'exister comme elles l'expriment et non pas comme elles le consignent. Et c'est ça qui c'est aussi ça qui est qui me fait un peu rager, c'est-à-dire que moi je devrais être plutôt dans un esprit de la France insoumise et intégrée comme telle. Or, moi qui ai toujours été considérée dans l'espace marseillais comme porteuse des valeurs du Front de Gauche, du Parti communiste, de la France insoumise, je me suis retrouvée à me battre contre des hommes et des femmes qui tenaient plus à leur place, à cette idée que un peu néocolonialiste, qui consiste à nous faire penser que nous ne sommes pas les mieux placés pour pouvoir parler de ce que nous sommes et de ce que nous savons. Et du coup, on s'est retrouvé à nous battre contre ces hommes et ces femmes. Et pour pouvoir le faire, eh bien, j'ai dû me décaler de ce que j'étais, de ce que je portais, pour pouvoir dire, bon ben, de la même manière que dans une rénovation urbaine, il faut détruire pour reconstruire. Et on en est là. Et c'est ça qui est dommage. Alors qu'on aurait pu faire les choses le plus tranquillement et le plus sereinement possible.
C'est un peu comme dans le film Alien. Où...
Je ne sais pas si c'est un peu ça, mais...
Je ne sais pas si tu l'as vu.
Pour revenir à la question que tu m'as posée, l'essentiel d'un rapport de force et d'une opposition à l'Assemblée nationale, ben, c'est évident, je le dis avec le
quand tu dis j'ai changé mon identité, j'ai dû changer, modifier un peu, me décaler par rapport à ce que j'étais politiquement. Tu veux parler de ton investissement au sein du mouvement des progressistes. C'est là qu'il faut que tu nous parles de ta carrière politique, au sein de quel mouvement politique tu as commencé, quelles élections tu as gagnées.
Oui, alors en fait, je n'étais pas non plus programmée pour en faire, moi, de la politique.
Oui, comment c'est venu?
Ben, c'est venu parce que pendant un temps, avec la mode de la diversité, les partis politiques ont fait leur marché. Et donc nous avons été un certain nombre à être désignés comme pouvant potentiellement faire partie de ce groupe porteur de projets ou de valeurs ou d'idées. Donc moi j'ai juste accepté.
Tu avais quel âge à l'époque ?
Ben, j'étais pas très jeune non plus. Hein. Attends, j'ai 46 ans aujourd'hui.
Ah,
hein.
Mais parce que tu fais très jeune, c'est pour ça.
j'ai 46 ans, j'ai un peu grandi. Et j'ai commencé ma première élection, elle a été en 2007. Mais c'est en 2004 qu'on m'a demandé si je voulais bien faire partie de la liste pour les régionales. Donc j'étais positionnée en bonne position hein, pour les régionales. Il y a eu quelques couacs. J'ai dû me retirer pour laisser la place à une camarade qui avait été éjectée du groupe. Finalement, on m'a demandé en 2007, avec l'arrivée de Sarkozy en force, si je pouvais être candidate pour les législatives sur cette circonscription. Mm-hmm. À ce moment-là, on fait un score qui est quand même assez honorable, puisque pour une première présentation et puis une présentation uninominale, hein, puisque c'était à mon nom, on fait presque 7%. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. Ça n'est suivi toutes les autres échéances électorales. Donc j'ai dû à chaque fois accepter les demandes qu'on me faisait. Mm-hmm. J'ai été donc tour à tour suppléante de Joël Dutot en 2008. Et puis aussi en 2008, j'ai fait partie de la liste des municipales dans le 13e et 14e arrondissement. Mm-hmm. Là, de la même manière, comme nous étions que des identités remarquables, pour certaines d'entre nous, on m'a demandé si je pouvais m'occuper de la citoyenneté, comme si moi, je n'avais que le verbe approprié en direction de mes frères de fortune pour leur dire combien ils devaient s'organiser pour être de bons citoyens. Donc j'ai refusé, j'ai demandé le développement économique et l'emploi parce que j'avais des choses à faire dans ce domaine-là. Et puis comme j'étais aussi travailleur social, que je le suis toujours, je suis responsable de la plateforme de services publics à Malpassé. Pour moi, c'était une cohérence puisque j'avais besoin de permettre à certains jeunes de trouver dans une démarche politique un lieu de réalisation et d'espoir. pouvoir. Mmh. Voilà, donc c'était pour moi important et essentiel d'avoir la maîtrise sur des domaines particuliers et importants pour nos quartiers de développement et notamment de développement social urbain. Donc j'ai accepté d'être maire adjointe à la mairie des 13-14. Malheureusement, nous n'avons pas eu la majorité nécessaire pour pouvoir avoir la ville. Et j'étais aussi à la communauté urbaine. J'étais conseillère à la communauté urbaine. J'ai vécu un mandat électif. Comment dire ? Pénible. Pénible. Être dans des lieux de décision et s'apercevoir que ce sont des lieux où on devient des outils de consignation, c'est pénible. Moi, j'étais arrivée avec...
C'est l'impression que tu as eue.
Ah ben, c'est pas l'impression, c'est effectivement ce que l'on est quand on est à la communauté urbaine. Bien sûr qu'on a, on a un espace où on va exprimer, et ça c'est l'espace public qui nous le permet, dans les assemblées plénières. On donne notre position politique, on donne notre position sur des rapports. En revanche, c'est tellement mécanique... que les rapports passent, sont validés et le contenu n'est pas du tout en adéquation souvent avec la demande de la population et en tout cas celle qu'on a espéré représenter et qui sont issues des quartiers populaires. Voilà, tout ça, ça a fait que je ne souhaitais plus repartir sur un mandat électif à l'issue...
Du moins au niveau local.
Au niveau local, mais même je n'imaginais pas non plus être une nouvelle fois candidate. Et sur des rapports un peu humains dégradés qui ont parfois ont cette espèce de d'acte menaçant sur ce que l'on peut être, c'est-à-dire que si tu fais pas ça, tu feras pas ça, si je te ferai du coup moi qui suis quand même
du chantage et tout,
un peu de chantage et que je suis une tête brûlée. J'ai décidé de repartir, puisqu'on m'a invité à m'arrêter et que j'avais moi fait la proposition de ne plus être élue. Et qu'in fine, on a procédé à des choix d'accord avec la gauche locale qui était pas à la hauteur de ce que nous on a pu être tout au long de ce mandat. J'ai décidé finalement de dire non. C'est comme ça aussi qu'on résiste. On résiste face à l'adversaire qui peut être le Front National et la droite parce qu'ils ne portent pas les mêmes projets et les mêmes promesses pour la population. Mais on résiste aussi face aux siens qui eux ont souvent ou par habitude passé des accords qui n'intéressent pas du tout la population.
D'accord. Oui, effectivement, ça a dû être chaud, ton expérience locale.
Ça a été compliqué, puis on est parti, donc j'ai avec un certain nombre...
Tu n'as pas été conseillère générale aussi ?
Je le suis toujours.
Tu l'es toujours.
Je le suis, mais avant, il y a la période des des municipales de 2014, où avec la rupture avec le parti communiste... J'ai quand même décidé d'être candidate et un peu plus tard quand Pape Diouf avec sa liste citoyenne, je répète, sa liste citoyenne a décidé de faire partie de l'ambiance politique, eh bien j'ai tout naturellement intégré en tant qu'indépendante cette liste. Sauf que moi, on est capable de me le reprocher, mais par ailleurs, on va pas le reprocher à d'autres qui...
C'était pour les municipales.
Indépendante, c'était pour les municipales. Et pour les départementales aussi, j'étais indépendante.
D'accord. Et donc, en fait, tu n'as jamais été PCF ?
Si, j'ai toujours été PCF. J'ai été PCF jusqu'en 2014.
D'accord, ok. Alors, donc les gens savaient d'où tu venais quand même, politiquement.
Bien sûr.
Ok.
C'était pas facile pour moi. Ouais. C'était pas facile pour moi de faire que nos idées qui sont toujours hein, des idées
d'égalité,
auxquelles j'ai beaucoup d'attachement, ouais. D'égalité, de justice sociale, de justice humaine, fasse qu'elle puisse exister dans nos quartiers populaires. D'accord. Pour des élections locales, je dis bien, je précise, hein, parce qu'on va me dire, oui, mais pour les présidentielles, c'est quand même Mélenchon qui est passé. Bien évidemment, les présidentielles, on ne vote jamais comme pour les locales.
Bien sûr, c'est très différent. On en discute tout à l'heure, après Pauline Croze, T'es beau, c'est une chanson que tu as choisie, que tu aimes bien.
Oui.
T'es beau parce que t'es courageux, de regarder dans le fond des yeux, celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. Comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, chez moi, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine, j'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivant à présent.
Awaria, on reprend. Alors, très belle chanson, magnifique. Une petite question. Alors, on était en train de parler des élections locales, les départementales. Donc, tu es donc conseillère générale.
Oui, conseillère départementale.
Pardon, conseillère départementale, c'est vrai. J'arrive pas à m'y faire à cette réforme.
Mais on n'est pas beaucoup
à l'avoir intégrée. On disait conseillère générale jusqu'ici. D'ailleurs, une petite question, pourquoi on a changé ?
Parce que c'était dans une volonté de parité.
Ah oui, d'accord.
Et donc on a aujourd'hui autant de femmes que d'hommes au conseil départemental.
D'accord, alors qu'au conseil général, ce n'était pas le cas ?
Non.
Ok. Alors, parle-nous un petit peu de ta vocation en tant que conseillère départementale. Tu voulais, je pense, parler de ton positionnement politique, qui est d'être indépendante, mais tout en faisant en sorte que tes électeurs soient bien conscients que tu es de gauche, traditionnellement d'extrême gauche.
Oui, oui. Bah, je crois que mes électeurs, eux, n'en doutent pas. Et c'est plutôt les faiseurs de choses politiques qui essayent un petit peu de me jeter sur la place publique en disant « oui, mais on ne sait plus, non, on sait ». On sait qui je suis, on sait ce que je fais, ce que je peux être, et ce que je peux apporter en matière de...
Ça fait combien de temps que tu es conseillère départementale ?
Depuis 2015.
D'accord. Ça fait pas beaucoup, ça fait que 2 ans. Est-ce que une ou deux réalisations dont tu es le plus fière, de choses...
En tant que conseillère départementale, pas trop, puisque nous sommes dans l'opposition. Et d'accord. Donc, nous n'avons pas les coups des franches pour réaliser ce qu'on a plutôt envie de faire. En revanche, je suis assez fière de pouvoir systématiquement tenir la dragée haute aux hommes et aux femmes de la classe politique opposante, donc de droite. Et je suis fière d'être en capacité systématiquement d'être l'élément de contestation systématique.
D'accord, parce qu'à droite il y a des sacrés numéros quand même.
Ben oui, et puis si on n'y prend pas garde, eh bien le projet se développe et personne pour s'y opposer.
Tout à fait, c'est ça la politique, hein, pour le rappeler à nos auditeurs.
C'est ça.
C'est être présent sur la scène politique, dans les instances décisionnaires, de façon à pouvoir faire entendre sa voix et ne pas laisser passer n'importe
tout
quoi.
Tout à fait. Tout
et
à
c'est
fait.
Très c'est... important.
Et c'est pour ça que c'est dommage qu'au Conseil régional, il n'y ait pas non plus une représentation d'opposition de gauche.
Et que tu expliques comment ce manque d'opposition, un manque d'investissement politique de la part de nos concitoyens.
C'est encore une nouvelle fois des accords... traditionnels qui tantôt tiennent et tantôt ne tiennent pas.
D'accord.
Donc là, grosse erreur.
Mais là encore, il faut quand même signaler et le clamer bien fort, il y a quand même un phénomène d'élitisation qui vient non pas uniquement des blocages que l'on peut opposer aux gens issus des classes populaires pour aller vers justement ces instances de décision et jouer un rôle important. Il y a aussi le fait que beaucoup, ce sont des blocages que nous créons, les blocages du bas, parce qu'il y a les blocages qui viennent du haut, puis il y a les blocages qui viennent du bas. Et d'en bas, souvent, on s'imagine trop souvent dans les quartiers que être conseiller départemental, être conseiller régional, être élu sur une liste municipale, c'est trop éloigné, c'est réservé à ça fait partie des mystères de l'Ouest, on va dire, entre guillemets.
Bien
pour
sûr.
Certains, ça paraît complètement utopique.
Non, mais que ce soit pour la chose politique ou pour l'emploi aussi. Hein. Mmh. Vous savez, beaucoup, depuis très peu de temps, on a des personnes qui pensent qu'ils ont toute autorisation à candidater à la PHM ou à la SNCF ou, pour être fonctionnaire. C'était loin dans l'esprit des jeunes, ou en tout cas des hommes et des femmes de nos cités,
de s'imaginer qu'ils
pouvaient être chauffeurs de bus à l'RTM.
Bien sûr, et pour faire de la politique et dire qu'ils sont conseillers départementaux, c'est encore pire.
Ah ben c'est pire, bien sûr.
Encore moins députés.
Surtout en fait on est choisi. Quand on est choisi, on a le sentiment d'être béni des dieux.
Oui, tout à fait. Mais cela dit, cela pourrait arriver encore davantage de personnes si on s'en donnait vraiment les moyens. Et je pense s'il y avait suffisamment faudrait presque faire de la pédagogie dans les quartiers pour expliquer aux gens que la politique c'est pour tout le monde, c'est accessible.
Alors, moi, je dirais qu'il faudrait plutôt qu'on fasse de la pédagogie dans les organisations politiques.
Oui.
Pour expliquer que, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes en capacité d'être au même niveau que ceux qui aujourd'hui prétendent pouvoir nous défendre.
Voilà. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, pour en revenir aux élections nationales, cette vieille utopie consistant à dire on veut être présent à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, en majorité. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, toutes nos vieilles têtes de pipe, qu'on voit toujours à l'Assemblée nationale. Moi, depuis que je suis gamine, je regarde l'après-midi, comment ça s'appelle, question
mercredi.
Gouvernement. Et on voit toujours la même tête depuis 20 ans.
Mais bien sûr.
Et d'un coup, ça change. Et on a des jeunes que je qualifierais, entre guillemets, dans la tranche qu'on dit bobo. Voilà. Et c'est les gens d'En Marche. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on aurait bien aimé être à leur place.
Bien sûr.
Et comment...
Mais avec la France insoumise, par exemple.
Avec la France. Voilà.
Parce que c'est avec la France insoumise et c'est les organisations de gauche qu'on a le plus d'affinités dans les quartiers populaires. Et c'est donc à ces organisations-là de créer les conditions de l'intégration dans la vie politique. Or là aussi la mécanique est tombée en panne quand on a voulu monter et que les portes se sont pas ouvertes. En revanche, même si je disais tout à l'heure qu'il y avait 39 députés aujourd'hui issus d'une identité remarquable, ils sont aussi issus du même niveau social, puisqu'il n'y a aucun ouvrier.
D'accord.
Parmi ces 39.
Ah oui, ok. Certes, le monde ouvrier est tombé plus ou moins en désuétude. Maintenant, c'est plutôt dans le secteur des services que les métiers prolifèrent, mais que oui, les
c'est
emplois...
C'est une catégorie socio-professionnelle qui est, dans laquelle on intègre aussi les employés du service.
D'accord, ah oui, ok. Et aucun, ok.
Non.
C'est que le travail, justement, d'information et de pédagogie dans les quartiers n'a pas été fait. Ou pas suffisamment, peut-être.
Ou parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire.
Ce sont nos formations politiques. Ça vient d'eux, tu crois?
Je crois qu'il y a une défiance, oui.
Oui. Même de la part de gens comme Robert Huche et progressistes, ou de la part du Parti communiste.
On verra, puisque je viens de rejoindre, puisque je rejoins depuis quelques mois le mouvement des progressistes, et j'entends bien y prendre ma place, même au niveau national.
Tu y es, donc ça va changer.
Je l'espère. c'est comme ça que j'avance.
Parce que bon, alors par contre, moi j'ai une autre polémique. Tout à l'heure, on disait, voilà, pour avoir, ils sont combien en marche? Déjà, je ne sais plus.
Ils sont 340.
D'accord, bon, la gauche ne pèse pas lourd à côté. Mais il y a 10 partis communistes, il y a 18 les indignés, et il y a à peu près entre 29 et 30 partis socialistes. Tu me dis, on disait tout à l'heure, est-ce que donc, les indignés constituent un groupe, mais pour être encore plus fort, ce serait bien qu'ils s'adjoignent les 10 partis communistes. Est-ce qu'il y a vraiment des chances que le PC aille se regrouper au lieu d'aller avec les LI, qu'il aille avec le PS? Est-ce qu'il y a des chances? Et une autre question, est-ce que tu crois qu'il y a une chance pour qu'il y ait un regroupement des trois factions à l'Assemblée nationale?
Ben, une partie, oui. Quand Jean-Luc Mélenchon, au second tour, appelle à voter pour les candidats du Parti communiste, mais aussi pour les candidats du PS qualifiés de... pas de rebelles, mais les... Les frondeurs, c'est de cela dont je parle. Mmh. C'est-à-dire tous ceux qui avaient eu le courage, dans la dernière mandature, de dire non à la politique de Manuel Valls. Je crois qu'avec eux, il y a de quoi construire. Il y a D'accord. de quoi constituer une vraie opposition.
D'accord. Donc notre paysage politique changerait fondamentalement, quoi.
Il le faut.
Voilà. Ce que je pensais aussi, et je ne sais pas ce que tu en penses avec moi... que ces modifications ne viennent pas seulement d'une tombée en désuétude des idéologies des différents partis politiques traditionnels français, ni d'une désaffection de la part de la population, mais peut-être aussi d'un changement générationnel. J'ai l'impression qu'on a sauté une génération. Regarde notre président de la République, Emmanuel Macron, il est beaucoup plus jeune que la moyenne. Et regarde nos députés, ils sont beaucoup plus jeunes aussi, quoi.
Oui, c'est la génération start-up.
Voilà. Oui, tout à fait.
C'est la génération
start-up. Ça change beaucoup.
Mais c'est aussi la génération qui peut être dangereuse. Hein.
C'est-à-dire ?
Parce que la génération start-up, ça veut dire qu'on va être dans un incubateur et sortiront que les têtards les plus viables.
Oui, tout à fait. C'est une question, c'est comme les spermatozoïdes, quoi.
C'est ça.
Voilà, tout à fait. La course à la survie.
C'est la course à la survie.
Voilà.
Mais c'est typiquement capitaliste, ça.
C'est pour ça que parallèlement à cela, je pense que tu es d'accord avec moi qu'une montée du droit et de la nécessité d'être dans un état de droit et de mettre en avant les règles de droit aussi bien à tous les niveaux, aussi bien au niveau local que national, au niveau de notre constitution également, et je sais si certains en parlent, avec notamment la réforme constitutionnelle qui est prévue pour la moralisation de la vie publique, qu'au niveau international, je pense qu'une montée du droit est indispensable à notre époque. On est à une époque charnière où si on ne met pas en avant la nécessité de faire droit et de respecter le droit, on risque d'aller dans une société où, comme tu dis, une société de têtards.
Moi, je pense que dans un premier temps, avant de légiférer, il faut faire respecter.
Tout à fait.
Et on a besoin d'être dans une égalité de droit, dans une égalité de traitement, que ce soit au niveau national ou international. Et je n'imagine pas le gouvernement en place avoir comme priorité cette égalité de droit. puisqu'on est encore sur un schéma qui s'exaspère de plus en plus et qui porte plutôt l'égalité des chances que l'égalité des droits.
C'est-à-dire, tu peux expliquer davantage ?
Ben, l'égalité des chances, ça fait appel à une notion très aléatoire. Puisque
Est relatif.
Bah, tout est relatif.
Voilà, mais il n'y a rien de posé, quoi.
Bah, il n'y a rien de posé. Puis ça remet en question la notion même de citoyen. Soit nous sommes
tous citoyens.
Des citoyens à part
libres
entière.
Et égaux en droit.
Et libres et égaux en droit. Soit nous sommes des citoyens avec des catégories de citoyens.
Et des catégories.
Avec des castes.
Et des catégories de chance.
Et des catégories de droit.
Des doses de chance, on va dire. Ou de droit.
De droit.
Voilà, tout à fait.
La chance n'est invitée que pour les classes populaires.
Voilà, tout à fait. Alors qu'en fait, c'est complètement aléatoire et complètement stupide. On voue ici carrément non pas seulement une société, mais toute une civilisation.
Tout à fait.
On la condamne à l'effondrement si on fait reposer l'intégralité de la mobilité sociale sur la chance.
Sur la chance, tout à fait.
C'est comme si vous gagnez, on disait aux gens, jouez au loto, quoi.
Mais
le jour où il n'y aura plus rien dans la cagnotte.
Ben, du coup, le budget sera géré par la Française des Jeux.
Voilà, tout à fait.
Ce serait un peu pénible.
Bien. Sur ce, c'est très philosophique ce qu'on dit, mais merci d'être là et d'en parler. Et je pense que ça nécessiterait un jour, il faudrait que tu reviennes encore une fois.
Mais volontiers.
Des discussions plus élargies, justement, sur cette question de l'égalité des droits. Sur Marseille, on repart sur du local, hein, d'accord. Qu'est-ce qui manque à Marseille? Il y a deux ou trois idées en tant que conseillère départementale.
Ben, il manque ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'égalité de droit.
C'est flagrant à Marseille.
Ben, c'est flagrant quand on
rien
voit
pour
qu'on
les transports.
A, ben, les transports, le logement. On est dans un traitement à deux vitesses, hein, de la ville et de sa population. Donc dans un premier temps, il faut que la prochaine équipe soit celle qui permette l'unité de la ville.
Tout à fait. C'est très important, ça. Je pense que l'égalité des chances, ça se joue déjà au niveau local.
L'égalité des droits, ça se joue déjà au niveau local.
Et tu vois, je me trompe, j'ai fait un lapsus très révélateur. J'ai dit l'égalité des chances,
parce qu'on l'a plus intégré. Parce qu'on l'a plus intégré. On a oublié, en fait, que le droit existe.
Voilà.
Et qu'il peut être opposable.
Les gens l'oublient. Normalement, ce que certains, qui ne sont pas laïcs, appellent Dieu, ça devrait être le droit, finalement.
Tout à fait.
Quelque chose qui a été voté, qui est éthique, équitable. Alors ensuite, deuxième chose, aujourd'hui, on en parle très rapidement parce que ça passe toujours trop vite, les émissions, mais il faut que tu reviennes de toute façon. On a parlé des... Aujourd'hui, on est à la Friche Belle de Metz, c'est la journée des réfugiés, et on a justement le Festival de Marseille qui est présent, avec des initiatives comme la cuisine des chefs réfugiés, par exemple au restaurant des Grandes Tables à côté, et beaucoup de manifestations, la journée, beaucoup de manifestations autour du phénomène des migrations et des réfugiés. Deux mots là-dessus ? Notamment des partenaires que tu connais très bien d'ailleurs.
Oui, certains partenaires, mais pour certains qui tentent d'organiser des concerts solidaires sur la région pour pouvoir permettre à l'association SOS Méditerranée d'engranger des dons. Mais je suis quand même assez soulagée parce qu'on a vécu ces dernières années un regard sur la situation des réfugiés qui a été compliqué. Et arriver dans l'enceinte de la Friche et voir qu'il y a des hommes et des femmes qui font ce témoignage de l'inquiétude, hein, de la situation des réfugiés, pour moi ça me réconforte parce que je me dis on n'a pas encore tué cette société, cette volonté et cette société solidaire qui résiste.
Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 juin 2017, hein, à la Friche Belle de Mai, dans le cadre du Festival de Marseille et de la Journée nationale des réfugiés, la Journée mondiale des réfugiés, pardon.
Oui.
Il y a plein de manifestations qui ont été organisées à la Friche Belle de Mai. Ceci, ce petit aparté pour ne pas induire nos auditeurs en erreur. Ils ne se sont pas trompés, l'émission a simplement été enregistrée avant sa diffusion. L'émission est bientôt terminée. Je voudrais simplement deux mots sur nos élections nationales. Et tu reviendras pour parler du local et de l'égalité des chances, parce que je trouve ça très intéressant. Pourquoi pas lors d'une table ronde avec d'autres invités. Je pense que ça peut être sympa.
Volontiers.
Alors, deux questions. D'abord, comment tu as vécu les présidentielles ? Rapidement.
Comme la citoyenne lambda que je peux être à un moment donné, c'est-à-dire d'abord avec une volonté que la gauche soit et une expression beaucoup plus franche. Malheureusement, on a été happé par le système qui lui a résisté et qui s'est reconstitué autour de la candidature de notre président actuel. Et puis je me suis dit pourquoi pas et essayons de voir ce que ça peut donner, puisque c'est une jeunesse et qui peut peut-être donner de belles choses par ailleurs, même si je suis inquiète sur le projet de développement économique.
Très bien. Pour être un bon président, deux qualités:
être à l'écoute de sa population. Mmh. Et ne pas oublier ce que les autres ont construit pour ne pas le détruire.
Oui, d'accord. Pour maintenir une permanence, pour ne pas faire opérer de rupture entre les mandats.
Tout à fait.
Très important, c'est quand même la moindre des choses.
Surtout quand ce qu'on a gagné a permis à beaucoup de s'en sortir.
Ouais. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé, depuis, parce que la constitution actuelle date quand même de 1958, on fait aucune révision pour mettre en place des mécanismes pour garantir cette permanence. Et ça, c'est vraiment dommage.
Oui, mais parce qu'on passe de dogme à un dogme.
Voilà, tout à fait, c'est vraiment bête. Hein. Ensuite, deuxième chose, pour les législatives. Alors, être un bon député, rapidement.
Être à l'écoute de la même manière.
Pareil, même chose. Ok. Et trois mesures internationales qu'on devrait prendre en France pendant que le générique passe en douce.
Ah ben, les trois mesures internationales, elles sont celles liées à la justice sociale,
oui,
au réajustement du droit du travail au niveau européen, et puis de la sortie de l'OTAN, parce qu'il faut enfin avoir le courage de sortir de l'OTAN.
Pour quelle raison ?
Parce que nous ne sommes pas non plus suffisamment armés pour aller faire la guerre à des peuples
en suivant les États-Unis. Voilà. D'accord, je suis d'accord avec toi.
Et puis le respect des mesures qui ont été prises par l'ONU, notamment en matière de droit international en direction de la situation israélo-palestinienne et notamment sur le peuple palestinien et puis encourager l'émancipation des peuples.
Merci beaucoup. Très bonne
C'est
idée.
Moi.
Excellent.
Merci.
C'est effectivement le rôle que devrait jouer la France.
Oui.
Awaria, je te remercie. Je rappelle que Awaria s'est beaucoup investie lors de ses dernières élections législatives. Elle était candidate pour le mouvement des progressistes, un mouvement qui a été créé par un ancien leader du Parti communiste français, Robert Hue. Et nous reverrons Awaria. Je pense que je l'inviterai à d'autres occasions parce qu'il a des thématiques très intéressantes qui ont été abordées. C'est dommage qu'on ne puisse pas les approfondir davantage.
En tout cas, merci de ton invitation.
C'est moi qui te remercie, Awaria, et je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.